Donc je vous invite à ouvrir votre Bible dans le livre de la Genèse, c'est le premier livre de la Bible. Livre de la Genèse au chapitre 12, on va lire un passage dans la vie d'Abraham. 12 et puis le début du chapitre 13. Le titre du message de ce matin, c'est « Quand tu as perdu ton autel ». Quand tu as perdu ton autel. Donc j'aimerais commencer la lecture, donc chapitre 12, les trois premiers versets. Le Seigneur dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta parenté, la maison de ton père, va dans le pays que je te montrerai. » Je m'arrête ici. Abraham, il était dans une certaine vie. Il avait sa manière de faire et de voir les choses. Et Dieu va l'appeler à une nouvelle vie. Il va lui demander de quitter son ancienne vie, de quitter ce qui lui était familier pour vivre une nouvelle aventure de foi qui serait de se lancer dans la vie que Dieu avait pour lui. Et parmi nous ce matin, il y en a plusieurs, peut-être beaucoup, qui ont un jour aussi entendu cet appel « Quitte ta vie, celle que tu menais sans me connaître, juste pour te faire plaisir, de manière égoïste, quitte cette vie-là, moi j'ai une autre vie pour toi, où tu vas me suivre et tu vas expérimenter et vivre des choses différentes. » Et peut-être plusieurs comme Abraham, nous avons aussi entendu cet appel et nous l'avons suivi. Verset 2, Dieu dit à Abraham, « Je ferai naître de toi une grande nation, je te bénirai et je rendrai ton nom célèbre, tu seras une bénédiction pour les autres. » Dans le projet de vie pour Abraham, c'est « Je te bénirai ». Donc le désir de Dieu, c'est de nous bénir. « Je ferai de toi, je rendrai ton nom célèbre, non pas je ferai de toi une star, mais je te rendrai ton nom grand, parce qu'en fait il y a beaucoup de choses dans cette vie qui nous rapetissent. Hein. Quand on bâtit son succès sur le mensonge, sur la tricherie, sur l'impureté, en fait, on peut se croire très haut, mais en fait, on se rapetisse. Mais Dieu dit, je ferai ton nom grand. C'est-à-dire que vraiment ta vie, quand moi je l'analyserai, c'est vraiment une vie qui valait la peine, qui a de la valeur. Et non seulement je te bénirai, mais tu seras une bénédiction pour les autres. Donc c'est vraiment, quitte ton ancienne vie, je veux te faire entrer dans une vie de bénédiction, et aussi où tu seras vraiment une bénédiction pour les autres. Verset 4. Abraham, qui était âgé de 75 ans, accepta de quitter Haran comme le lui ordonnait le Seigneur. Il prit avec lui sa femme Sarai, son neveu Lot. Ils emportaient toutes leurs richesses et emmenaient les esclaves achetés à Haran et se dirigèrent vers le pays de Canaan. Lorsqu'ils arrivèrent au pays de Canaan, ils le traversèrent jusqu'au chêne sacré de Moré à Sichem. À cette époque, les Cananéens habitaient la région. Le Seigneur apparut à Abraham et lui dit « Je donnerai ce pays à ta descendance. » Abraham construisit un autel au Seigneur à l'endroit où il lui était apparu. Donc Abraham accepte d'entrer dans le plan de Dieu. Il quitte son ancienne vie. Il va entrer dans le pays de la promesse. Et là, dans le pays de la promesse, Dieu va lui redire « Voilà le projet que j'ai pour toi et pour ta famille, pour ta descendance. » Ce pays-là, pas celui que tu viens de quitter, ce pays-là, c'est à toi que je le donne et à tes enfants. Et quand Dieu a fait cette promesse, Abraham, il est dit qu'il a construit un autel à cet endroit où Dieu lui a parlé. Et puis on lit un peu plus loin. De là, il passa dans la région montagneuse à l'est de Bethel. Il installa son camp entre la ville de Bethel à l'ouest et celle d'Aï à l'est. Et il y construisit un autre autel, et il prie à Dieu en l'appelant Seigneur. Donc, il rentre dans le pays, Dieu lui redit, voilà, là où tu te tiens maintenant, c'est là la vie que j'ai pour toi, c'est ça que j'ai pour toi, je te bénirai, je te rendrai une bénédiction. Et là, il bâtit un autel. Il va un peu plus loin dans le pays, et là, à nouveau, il bâtit un autel, et il invoque le nom de Dieu, et il l'appelle Seigneur. Et j'aimerais vous dire un petit peu à quoi ça servait de bâtir un autel. Bâtir un autel, c'était quelque chose de très sérieux à l'époque. dans cette culture. Bon, il faisait c'était un monticule, hein, faisait un autel, il prenait des pierres, de la terre, du bois, il faisait un monticule. Souvent, il gravait quelque chose sur l'autel, il y a des traces archéologiques d'autels que l'on voit, et souvent ils allaient graver par exemple la promesse, une promesse ou un vœu qu'ils faisaient à Dieu. Et quand on construisait un autel, c'était comme un serment. C'est dire, Dieu, je promets, tous ceux qui passeront, qui verront ce monticule, le seront, c'est public, je promets que je vais entrer dans la vie que tu m'as montrée et que tu m'as promise. Je vais te suivre, tu seras mon Dieu, je crois dans tes promesses, je serai cet homme que tu bénis et que tu béniras. Ce pays, ça deviendra le mien et ceux de ma descendance. Donc Abraham, deux fois, il a construit un autel, c'est comme s'il faisait un pacte avec Dieu et disait, Dieu, je te suivrai. Tu seras mon Dieu, je veux te faire plaisir. Et je pense qu'il était complètement sincère quand il a fait cet autel. Et c'était vraiment le désir de son cœur. Et pour toi qui es là ce matin, peut-être un jour aussi tu as entendu la voix de Dieu. Tu étais peut-être enfant, tu étais jeune, tu étais, je ne sais pas. Tu as entendu la voix de Dieu qui t'a dit, viens, je t'aime, je veux que tu me sois mon disciple, je veux que tu me suives. J'ai un avenir fait d'espérance pour toi. Et peut-être vous avez été touché, vous avez fait un autel, peut-être vous avez pris le baptême, ou peut-être vous, dans votre chambre, vous êtes mis à genoux et dit, Dieu, je te donne ma vie, Dieu, je veux te faire plaisir, Dieu, je veux te suivre, je crois dans la vie que tu as pour moi, dans tes promesses. Vous vous êtes engagé. Vous avez peut-être aussi fait un engagement. Et j'aimerais qu'on lise la suite. Verset 9. Puis, de campement en campement, Abraham prit la direction du Négev. Il y eut une famine dans le pays. Elle devint si grave qu'Abraham partit pour l'Égypte afin d'y séjourner quelque temps. Il était dans la vie que Dieu avait pour lui, je te bénirai, je te ferai de toi une bénédiction. Il était dans le pays, l'endroit où Dieu l'appelait, mais il est dit que dans cette vie qui était selon Dieu, voilà qu'il y a une famine qui s'installe. Et il est dit que cette famine devint si grave qu'Abraham partit pour l'Égypte. Il va quitter le pays que Dieu lui a donné à lui et à sa descendance. Et j'aimerais vous lire ce matin quelques extraits d'un livre qu'on m'a prêté, qu'on m'a offert et que j'ai lu, qui m'a beaucoup touché. Et je voudrais lire un petit commentaire sur qu'il met l'auteur Claude Wood, qui est un pasteur du Canada, qu'il met sur ce passage. Quand la famine éclata dans le pays de sa promesse, dans sa vie avec Dieu, Abraham se trouva dans un combat de foi où l'adversaire rugissait. Et lui, Abraham, était déchiré par les douleurs de ces interrogations qui sont communes à tous les croyants. Où? Quand? Comment? Pourquoi, Seigneur? Cet autel de foi qu'il nous faut bâtir ou maintenir, quand les vents d'incertitude, de révolte, de peur, d'angoisse et de doutes hurlent leurs menaces autour de nous, c'est une des choses les plus difficiles de la vie d'un chrétien. C'est peut-être un jeune homme ou une jeune fille qui est le témoin impuissant du divorce de ses parents et qui écoute son Walkman à tue-tête pour enterrer le bruit des insultes qui, comme des flèches empoisonnées, mettent à mort la vie telle que ce jeune l'a connue et aimée. C'est une maman monoparentale qui regarde son fils aujourd'hui, un jeune homme troublé, troublant, alors que c'était encore hier un enfant obéissant et affectueux, et cette maman se demande, mais qui est donc ce monstre rebelle et arrogant qui porte les vêtements de mon fils ? C'est peut-être vous et moi, la famine, entendant l'annonce du diagnostic du médecin, ses flèches ont le visage du cancer, d'un anévrisme cérébral, d'un infarctus, de la leucémie. C'est comme si tout d'un coup le soleil s'arrêtait de briller au-dessus de votre vie. C'est aussi ce célibataire que la solitude pousse au bord du gouffre et qui s'y questionne, mais quand Seigneur ? Pourquoi ? C'est encore l'homme d'affaires, l'entrepreneur qui a tout misé, tout donné pour son travail et qui se trouve maintenant proche de la faillite. De plus en plus souvent, il est pris par l'envie d'éclater en sanglots dans son beau costume d'homme au-dessus de ses affaires. Et dans ces moments-là, il se sent nu, se pense raté, minable. Cette foi qui marche dans le temps de famine, cette foi qui marche dans la vallée de l'ombre de la mort, avance sur des sentiers où les promeneurs ne s'aventurent pas. Les touristes de la croix sont retournés à la maison depuis longtemps. Dans cet endroit, vous allez trouver seulement les vrais. C'est un pasteur passionné qui voit son église se diviser. C'est un homme ou une femme de foi vivant un divorce qui ne pourra pas être réparé et qui laissera une fracture de l'âme si violente que cet individu croit qu'il boitera pour le reste de sa vie. Il y eut une famine dans le pays de la promesse. Et la Bible lève un voile honnête et douloureux sur ce qui arriva. La famine s'apesantissait et Abraham s'éloignait de son autel. Cher lecteur, regardez bien Abraham. Parce qu'Abraham, c'est vous et moi à un moment ou un autre de notre vie chrétienne. Vous vous dites, j'ai perdu quelque chose. Ma louange, ma passion pour Dieu, pour sa parole, mon enthousiasme pour sa maison. J'ai perdu ma générosité, mon zèle. J'ai perdu ma sensibilité aux besoins qui m'entourent, mon sourire, ma joie de vivre. Mon rire sonne faux à présent. Abraham avait perdu son autel parce qu'il y avait une famine. Qu'est-ce que c'est que la famine ? La famine, c'est une série de coups durs, de déceptions, de mauvaises nouvelles et de coups sur coups que nous encaissons sans broncher, mais qui laissent leurs traces et qui nous volent sournoisement notre objectif sans que nous le réalisions. Abraham avait perdu l'objectif. Et j'aimerais qu'on continue la lecture dans Genèse 12. Verset 11. Au moment de pénétrer dans l'Égypte, Abraham dit à sa femme Sarai, « Écoute, je sais que tu es belle, et quand les Égyptiens te verront, ils se diront que tu es ma femme, ils me tueront, ils te garderont en vie. Dis-leur donc que tu es ma sœur, afin qu'on me traite bien à cause de toi, ainsi j'aurai la vie sauve grâce à toi. » Frères et sœurs, dans ce qui nous est dit ici, il y a une illustration de ce qui se passe quand on perd notre autel, quand on s'éloigne de notre autel. C'est Abraham qui avait dit « Je vivrai pour toi, Seigneur, j'accomplirai tes promesses. » Maintenant, il vit pour sa pomme, il vit pour Bibi, pour lui. Ce qui compte, c'est qu'on le traite bien. Ce qui compte, c'est qu'il ait la vie sauve. Quand ta priorité en tant que chrétien est devenue de sauver ta vie ou de te faire du bien, tu t'es éloigné de ton autel. Abraham a perdu sa vocation. Abraham est centré sur lui, centré sur son bien-être, centré sur son bonheur, centré sur sa sécurité et tout ce qu'il importe, qu'on me traite bien. Et que j'ai la vie sauve. Et ça, quel que soit le prix à payer. Verset 14. Lorsqu'Abraham arriva en Égypte, les Égyptiens remarquèrent que sa femme était très belle. Des officiers du Pharaon la virent et firent son éloge à leur maître. On emmena la femme au palais du roi. À cause d'elle, le pharaon se montra bienveillant pour Abraham. Il lui donna des moutons, des chèvres, des bœufs, des serviteurs, des servantes, des ânes, des ânesses, des chameaux. Mais le Seigneur frappa le pharaon et sa famille de grands malheurs à cause de Sarai, la femme d'Abraham. Le pharaon convoqua Abraham et lui dit, « Mais pourquoi m'as-tu fait cela? Pourquoi ne m'as-tu pas averti que c'était ta femme? Pourquoi as-tu dit que c'était ta sœur? Si bien que je l'ai prise pour femme. Maintenant, voilà ta femme, prends-la et va-t'en. » Abraham a perdu son autel. Il a perdu sa destinée. Il ne marche plus dans la vie que Dieu a pour lui. Sa vie, c'est « Je te bénirai et je ferai de toi une bénédiction. » Et il est en train de vendre, de troquer sa femme dans le mensonge. Il est dit qu'à cause de lui, la maison de Pharaon souffre. Lui qui était fait pour bénir les autres nations, il est devenu, parce qu'il a perdu son autel, quelqu'un qui fait souffrir. Abraham, cet homme qui disait « J'ai foi en toi, Seigneur », aujourd'hui tremble devant ses ennemis, il est prêt à toutes les magouilles pour essayer de faire face à ses peurs. Mais l'histoire s'arrête pas là, verset 20. Le pharaon donna alors à ses serviteurs l'ordre de reconduire Abraham à la frontière avec sa femme et tout ce qui lui appartenait. D'Égypte, Abraham retourna au Négev avec sa femme et tout ce qui lui appartenait. Lot l'accompagnait. Abraham était très riche, il possédait de grands troupeaux ainsi que beaucoup d'argent et d'or. Et il alla par étapes du Négev jusqu'à Bethel, là où il avait déjà campé entre Bethel et Haï, à l'endroit où il avait construit un autel. Et Abraham y pria Dieu en l'appelant Seigneur. J'aimerais là encore vous lire des extraits de ce livre. Abraham est appelé dans la Bible le père de la foi, le père des croyants. Il est notre modèle, non pas parce qu'il est sans tâche, sans péché, que sa vie se trouve être une succession ininterrompue d'exploits, de sagesse, de perfection immaculée. Il est notre inspiration à tous simplement parce qu'il sait comment retrouver et rebâtir. Abraham, après s'être égaré, revint à l'endroit où était l'autel qu'il avait bâti au commencement. Et là, Abraham invoqua à nouveau le nom de l'Éternel. Il ne chercha pas d'excuses, de justifications, de rationalisation. Souvent, on est des chrétiens très fortiches pour ça. Il est revenu dans l'humilité, en reconnaissant son état devant Dieu. Il est revenu à sa promesse. Il est revenu à la simplicité de la prière, de la parole, de la maison de Dieu. Il a crié à Dieu, « Dieu, j'ai besoin de toi. Augmente ma foi. Accorde-moi de retrouver et de rebâtir ce que j'ai perdu. » Cher lecteur, je vous promets, sur la force de la parole de Dieu entière, Dieu ne refusera jamais un cœur qui revient à lui et qui rebâtit son autel. Et je voudrais terminer ce chapitre espérant qu'il puisse être un nouveau commencement puissant et illimité pour toi. Et pour cela, je vous donne deux promesses. Méditez-les, serrez-les dans votre cœur. Cette première promesse, elle est dans Deutéronome 33, versets 26 et 27. Telle qu'on la trouve dans la traduction de la Colombe, où il est écrit que Dieu chevauche les cieux pour venir à ton secours, et sous toi se trouvent des bras éternels. Dieu chevauche les cieux pour venir à ton secours, et sous toi se trouvent des bras éternels. Lorsque tu as commis les pires erreurs, lorsque la honte de toi-même te fait crier de rage, lorsque ton regard est baissé, que tu es tombé tellement bas, juste en dessous de toi, tu trouveras ces bras éternels. Lorsque notre foi est forte, lorsque nos yeux regardent en haut vers le ciel, c'est pas difficile de croire que ces bras nous portent.
Nous vivons des moments de grâce et de prière exaucés. Sa présence est proche, réelle. Nous faisons des exploits qui nous surprennent, nous émerveillent et notre louange est enflammée. Mais lorsque nos yeux sont abattus par la fatigue, le désert, la famine, la peine, à cause de ce que nous avons perdu ou détruit, il est écrit « Au-dessous de toi, tu trouveras ses bras éternels. » Il vous portera lorsque vos yeux seront rivés vers le sol et que votre autel aura disparu et que vous ne serez plus fiers de vous-même. Mais ne tardez pas, emparez-vous maintenant de cette deuxième promesse. Dans Ésaïe 42, verset 3, il est dit que Dieu ne jettera pas le roseau qui est cassé. Il n'éteindra pas la mèche qui est faible mais qui brûle encore. Les enfants qui jouait sur les bords des lacs du pays du prophète Ésaïe connaissaient tous ce jeu amusant. Ils coupaient avec précaution la tige des roseaux, puis ils soufflaient dans la tige en la tenant délicatement, et un son de flûte délicieux qui remplissait l'air de bonheur et de gaieté. Mais si le fragile roseau se cassait, il n'était alors plus bon à rien et les enfants le jetaient et ils en prenaient un autre. Dieu dit, je ne jetterai pas le roseau qui est cassé. En quelque sorte, il vous dit, si ta vie a perdu sa mélodie, son chant, si ta louange ou ta prière s'est tue, si ton silence crie pour ton autel perdu dans la nuit, je vais te restaurer. Je soignerai patiemment le roseau cassé jusqu'à ce qu'il retrouve sa musique et sa joie devant moi. Le Seigneur déclare, je n'éteindrai pas la flamme, même la plus faible, si elle brûle encore. C'était courant de trouver en Israël de minuscules bougies. Elles étaient tenues allumées dans les maisons tout le temps, pour qu'il y ait de la lumière. Et lorsque une mèche était presque éteinte, on allumait une autre bougie et on éteignait la flamme vacillante. Mais Dieu dit, je ne ferai pas cela avec toi. Moi je suis différent, moi je suis patience et amour, et je connais tout de toi, je sais mieux que toi ce que tu as perdu, je connais la flamme qui s'est presque éteinte, je ne l'éteindrai pas, cette flamme qui brûle encore, mais je vais souffler, attiser tendrement la flamme par mon esprit, car je suis prêt à te rebâtir, prêt à te conduire jusqu'à ce que tu retrouves ce que tu as perdu. Ta flamme va brûler et briller puissamment à nouveau. Et là, je voudrais vous donner le témoignage de ce pasteur. Cher lecteur, je me suis retrouvé comme vous à ce carrefour de la décision, avec un choix à faire. Celui de continuer à dissimuler, à prétendre, ou celui de crier vers lui. Augmente ma foi, j'ai besoin d'être rempli de cette foi qui retrouve et qui rebâtit. Je ne suis pas fier de vous l'avouer parce que servir Dieu dans le ministère qu'il m'a accordé, c'est le plus grand privilège et la plus belle chose qui peut être offerte à un être humain. Mais il y a eu une saison de famine dans ma vie où je perdis mon autel et où j'abandonnais presque tout. J'étais au début de mon ministère pastoral, j'avais voyagé comme prédicateur itinérant pendant 5 années, rempli de joie, de témoignages, de victoires, d'aventures. Et j'étais maintenant marié à Chantal, une femme magnifique, belle, talentueuse. Nous étions pasteurs associés dans une église extraordinaire où nous servions auprès de la jeunesse. Moi, je poursuivais mes voyages, le côté ministère public continuait à tourner à plein régime. Mais il y avait une famine qui s'appesantissait dans mon âme. Chantal et moi avions vécu des décès, des deuils dans notre famille très proche, et aussi beaucoup de déceptions dans différentes sphères de nos vies, en amitié, dans les relations humaines. C'était également une période extrêmement difficile financièrement, et la pression était écrasante. Nous souffrions en silence et en secret. Moi, je me sentais un échec en tant qu'homme, en tant qu'époux. Mon épouse avait laissé une belle carrière pour être avec moi et je détestais les contraintes et la petitesse de la vie que je lui offrais avec mon salaire pasteur. À la même époque, des amis de la première heure abandonnèrent l'œuvre du Seigneur, les choses de Dieu, et cela nous déchira. Un de nos rêves les plus chers, c'était simplement d'avoir des enfants. Cela paraissait tellement normal à nos yeux. Nous brûlions avec anticipation d'être de bons parents. Lorsque Chantal m'annonça qu'elle était enceinte, c'était un rayon de soleil dans la grisaille. J'étais enthousiaste à la limite du délire. Et je claironnais cette annonce solennelle à toute l'église. « Mesdames et messieurs, c'est un jour de fête pour la famille Oud. Nous allons avoir un enfant. » Quelques mois plus tard, nous perdions le bébé. C'était notre première fausse couche. Il y avait toujours quelqu'un qui semblait ne pas avoir appris la nouvelle de la perte du bébé que Chantal avait porté et qui venait toujours la voir pendant des mois en lui disant « Comment ça va la grossesse ?» Il y eut 4 fausses couches en tout. Je ne peux pas décrire dans un livre la profondeur du puits de déception dans lequel nous étions tombés. La perte de chaque bébé était unique dans mon esprit, distincte avec ses détails sordides comme des petits films d'horreur qui jouaient sans répit dans nos pensées, paralysant nos journées, empoisonnant nos nuits où le sommeil était devenu tourment. Et je me souviens d'un vendredi soir, quelques minutes avant le début de notre réunion de jeunesse, j'étais dans mon bureau et je priais. Chantal avait perdu un premier bébé, mais elle était enceinte à nouveau et tout semblait aller mieux. Ce soir-là, le téléphone sonna. Je saisis le combiné. Chantal m'apprenait la terrible nouvelle. Elle faisait une grave hémorragie. Elle devait être hospitalisée. Le bébé était mort. Des amis étaient auprès d'elle et pour moi, il était trop tard pour annuler la réunion, me faire remplacer. Le cœur comme assassiné, je regardais de mon bureau l'agitation qui régnait dans la salle où les jeunes se rassemblaient, insouciants. Et je me souviens spécifiquement du chant d'ouverture que j'entonnais ce soir-là. « Venez et offrons un sacrifice de louange. » Les demandes du ministère ont repris le dessus. Tout continuait, les prédications, les cultes, les comités, le travail, les voyages, les pressions financières. Extérieurement, tout semblait aller. Mais je perdais peu à peu mon autel. Après la 3e fausse couche, les médecins étaient très pessimistes. Ils disaient, certains couples ne peuvent tout simplement pas avoir d'enfants, c'est tout. J'ai en mémoire cette rencontre pastorale, 2 jours après ce qui était un 3e drame pour nous. Elle venait de perdre son 3e bébé, et où je rencontrais une adolescente de 14 ans qui avait pris un rendez-vous. Je ne pouvais pas la joindre pour annuler cette consultation. Chantal était à la maison, elle m'a dit « Vas-y, ça va aller. De toute façon, on ne peut plus rien faire. » Je me rendis à l'église pour rencontrer cette adolescente qui était accompagnée de sa tante, une femme de notre église. Cette jeune fille ne fréquentait aucune église. Elle avait un petit ami. Tout à coup, elle se mit à pleurer. Nous nous sommes retrouvés seulement une seule fois ensemble. Et je suis enceinte. Cher lecteur, est-ce que vous comprenez où je veux en venir? Ce que nous désirions le plus au monde, mon épouse et moi, c'était simplement d'avoir un enfant. Mais nous ne le pouvions pas. Tandis que pour cette jeune adolescente, c'était bien la dernière chose qu'elle voulait dans la vie. Et elle portait un enfant qui naîtrait, d'ailleurs dans la pauvreté, dans la douleur. Le train-train exigeant du ministère, de la vie, continua avec les prédications, les comités, les réunions, les événements, les voyages, le ministère. Mais je perdais peu à peu mon autel et j'étais maintenant assailli par la pensée de tout lâcher. Jérémie, Dieu est bon, il est patient, il est fidèle. Je me souviens du lieu et du jour où je retournais à l'endroit où j'avais bâti un autel pour la première fois et où j'y invoquais l'Éternel. C'était lors d'un concert pour le lancement de l'album de mon ami Luc Dumont, un artiste chrétien doué d'un grand talent, qui écrit des chansons magnifiques qui font maintenant chanter la francophonie entière. J'étais sec, froid, fragile à l'intérieur. À l'extérieur, je semblais contrôler la situation, mais intérieurement, je tremblais. Lorsque Luc commença à chanter, un choix se présenta à moi. L'Esprit de Dieu m'appelait. Je montai à l'étage pendant que Luc et la foule étaient dans l'adoration. Je m'agenouillai alors que j'entendais les mots de cet hymne d'espoir qui est devenu mon cri. Je louerai ton saint nom. Je louerai ton saint nom, Seigneur Jésus, toute ma vie. Je louerai ton saint nom malgré les soucis de cette vie, malgré la tristesse et l'abandon. Toute ma vie, je louerai ton saint nom. Vous savez, la foi qui retrouve son autel, cela ne se raconte pas et ne s'écrit pas. Il faut le vivre. Ce sont des choses qui se passent entre un homme ou une femme et son Dieu. Il y a des miracles qui s'opèrent dans le cœur lorsque les profondeurs de Dieu appellent celles de l'être humain. Ce sont des moments solennels, secrets, indescriptibles et débordants de vie et de guérison éternelle. Ce jour-là, comme Abraham, je suis revenu à mon autel et j'ai tout remis entre les mains de Dieu. Avec ou sans enfant, nous le suivrions et nous le servirions. Et j'aimerais vous laisser une petite confidence aussi qui donne. Il raconte, ce pasteur, que lorsqu'il voyageait comme prédicateur, quand il était célibataire, donc avant qu'il soit marié, il a eu l'opportunité d'habiter chez des centaines de pasteurs et leurs familles. Et il rencontrait un grand nombre de parents gaga, intarissables d'éloges, de louanges, alors qu'ils portaient leur nouveau-né dans les bras. C'était toujours le plus beau bébé du monde. Et nous étions tous éberlués, un peu gênés, même décontenancés par ces parents qui s'émerveillent des moindres gestes, des moindres cris, des sons, des gazouillis, du petit prodige. Et une fois marié, j'entendais les mêmes choses. Et moi, je ne pouvais pas avoir d'enfant. À maintes reprises, j'agonisais en silence quand je les écoutais avec leur air passionné et je feignais de m'intéresser à ce récit interminable du poupon génie qui a soi-disant dit papa pour la première fois, alors que le croissement inintelligible n'était en fait qu'un rot ou une colique. Et je fis alors un vœu, un simple vœu. Si un jour j'ai des enfants, je ne serai jamais comme eux. Je serai raisonnable, mesuré, cartésien. Et si quelqu'un m'interroge ou me demande des nouvelles de mon enfant, je répondrai simplement, il est normal. Moyen, pas plus, pas moins, pas plus beau, pas plus intelligent, pas plus talentueux ou doué qu'un autre. Simplement un enfant normal. Je dois vous expliquer que ce n'est pas vraiment de ma faute, mais j'ai les deux enfants les plus extraordinaires du monde. Ils sont tous les deux en parfaite santé et sont une source de joie inépuisable. Je veux avec eux m'emparer de tout ce que Dieu a préparé pour nous. Je suis résolument intolérable de fierté et intarissable à leur sujet. Je suis le plus gaga de tous les pères. Ils ont eu deux enfants par la suite. Et ils en ont adopté. Je prie pour eux. Je ris avec eux. J'ai des rêves fabuleux les concernant. Je suis pasteur. Mais attention, un mot contre mes enfants et le berger se transforme en berger allemand. Je veux que ma vie leur démontre et leur enseigne que malgré les saisons de famine qu'un chrétien sincère peut connaître, il y a une foi qui retrouve et qui rebâtit ce qui a été perdu. J'aimerais demander à Gwyneth de venir. J'aimerais qu'on reste un temps dans la présence de Dieu.
peut-être ce matin, tu t'es retrouvé dans Abraham, que toi aussi un jour, tu avais bâti un autel à l'Éternel et tu avais dit oui au projet qu'il t'annonçait pour ta vie. Et puis dans ce pays de la promesse est venue la famine. Petit à petit, tu t'es éloigné et tu t'es retrouvé en Égypte, oubliant le projet de vie que Dieu avait pour toi, devenant simplement égoïste, méchant, faisant souffrir les autres. Mais l'histoire qu'on a lue ce matin nous dit qu'il y a possibilité de revenir à l'Éternel. Que c'est possible de revenir à l'autel qu'on a dressé la première fois. Seigneur, je voudrais te prier ce matin pour tous ceux, Seigneur, qui peut-être à cause de la famine, à cause des coups durs accumulés, même insensiblement, sans même peut-être s'en apercevoir, se sont éloignés, ne vivent plus, Seigneur, la consécration, le projet que tu avouais pour eux. Je veux te prier avec mes frères et sœurs ce matin pour qu'ils entendent ce message, que tu parles à leur cœur et que tu leur donnes le désir de se mettre en route et de retourner à leur premier autel et de à nouveau consacrer leur vie à Dieu, quelles que soient les difficultés de leur vie, que tu redeviennes celui qui sera le premier servi, celui qui aura priorité sur le confort, sur notre sécurité, sur notre bien-être. Que nous faire du bien ne sera plus notre slogan, mais te servir de tout notre cœur. Église du Seigneur, prie ton Dieu dans ton cœur ou dans, avec les mots de tes lèvres, prions le Seigneur. Pendant que nous prions le Seigneur, sans vouloir embarrasser personne, mais parce que Dieu me le met sur le cœur, je pense que c'est Dieu qui me le met sur le cœur. Ce matin, si Dieu a parlé à ton cœur, et si ce matin c'est sincère, tu as envie de revenir à ton autel, tu as envie que la flamme qui ne s'est pas éteinte, mais qui menace de s'éteindre, se réveille et se rallume. Si tu as envie que cette mélodie que tu as perdue, cette joie, cet enthousiasme que tu as perdu, tu voudrais que ton roseau soit redressé, que la douce mélodie de Dieu puisse à nouveau couler dans ta vie. Sous toi se trouvent des bras éternels. Le Seigneur est là, le Seigneur est prêt à nous accueillir, il est prêt à nous restaurer. Et je voudrais demander tous ceux qui ont le cœur touché ce matin, tous ceux qui ont été touchés et qui voudraient se reconsacrer à Dieu sincèrement, je vous invite à venir devant, peut-être vous mettre à genoux devant ou debout devant, vous mettre devant Dieu. C'est votre manière de revenir à votre autel, de mettre un monticule, que ce n'est pas simplement un secret entre vous et Dieu, que c'est un engagement public. Que vous êtes sérieux avec ce que vous signifiez ce matin, que vous voulez revenir dans la vie que Dieu a prévue pour vous. On va rester dans un temps de prière. Et dans ce temps de prière, même si c'est dur pour toi de te lever et de venir, mais si Dieu te demande de le faire, je t'encourage à le faire. Viens devant. Et consacre-toi à nouveau à ton Dieu. Demande-lui pardon. Ne cherche pas les excuses. Viens tel que tu es et demande-lui d'avoir pitié de toi, de te faire grâce
pour que tu aies cette foi qui retrouve et qui rebâtit son autel. Là où tu es ou là où tu te trouves maintenant, que tu sois devant ou à ta place, demande à Dieu la grâce de lui rester fidèle. De venir prier avec moi pour ceux qui se sont avancés, on va prier. Seigneur, que ta grâce soit avec nous. Je veux prier aussi, Seigneur, pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, mais que tu aimerais vraiment que cette parole, ils puissent la voir, que ce soit par le web, Seigneur, des gens qui vont se connecter sur notre site, que tu les amènes sur ce message, s'ils ont perdu leur autel, que ce soit une action surnaturelle pour les ramener à toi, Seigneur. Et aussi pour nos frères et sœurs de l'Église, il y en a, tu veux qu'on leur donne une copie de ce message, que tu nous diriges, que tout soit fait avec ta sagesse, ton amour, dans ta lumière, Seigneur.